Proverbe au chapitre 26. Proverbe au chapitre 26, c'est le verset 13. Et ce matin, nous prenons un petit break dans notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Et je vais ce matin vous adresser sur un sujet, ça ne m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont je suis un grand expert. Un sujet concernant lequel j'ai de longues années d'expérience. Le sujet de la paresse. La parole de Dieu adresse beaucoup de sujets, des sujets qui nous touchent de près, des fois des sujets qu'on préférerait pas traiter, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu change toute notre personne. Proverbe chapitre 26, Proverbe a beaucoup à dire sur la paresse et sur le paresseux. Et à partir du verset 13, Proverbe chapitre 26, nous lisons ceci. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gondes et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de le ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme. J'ai fait de longues recherches pour trouver l'homme le plus paresseux dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. J'ai lu l'histoire d'un homme dans les montagnes de la Virginie, d'un certain âge, qui était renommé dans tout le village où il habitait pour sa grande paresse. On nous dit que le jour est arrivé où son épouse, lui, était assis devant le feu que sa femme avait allumé, en train de bercer, puis regarder le feu, puis penser de... il se livrait de pensées très profondes. Sa femme a dit, « Chérie, je pense qu'il commence à pleuvoir, je suis en train de m'habiller, le linge est étendu dehors, va regarder par la fenêtre pour me dire s'il pleut, pour que je puisse aller sortir chercher le linge. » Le monsieur a continué à plonger ses regards dans le feu, puis à bercer un peu, puis il a fini par se lever la tête, puis il a dit, « Chérie, appelle donc le chien pour qu'il rentre, on va vérifier s'il est mouillé. » Ce matin, nous parlons de paresse et j'ai trouvé trois S. Nous allons regarder dans le livre des Proverbes les signes de la paresse. Nous allons regarder les séquelles de la paresse, les sources de la paresse et quelques solutions pour la paresse. Mais avant de commencer, j'aimerais faire deux bémols dans notre étude. D'abord, un principe herméneutique qu'on a discuté justement, un de nos mardis d'herméneutique qu'on fait dernièrement, un principe important quand on lit le livre de Proverbes, c'est que le livre de Proverbes nous présente des principes et non pas un diagnostic ni une garantie. Et tantôt, je vais peut-être dire quelque chose comme ceci. Je vais peut-être dire que la paresse peut nous amener à la pauvreté. Je vais sûrement faire ce point-là parce que le livre de Proverbes fait ce point-là. Mais avant de faire ce point-là et d'autres points, j'aimerais beaucoup qu'on réalise que dans le livre des Proverbes, les principes que nous dégageons sont des principes généraux. Et vous savez que dans le tiers-monde, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et qui sont extrêmement travaillants, n'est-ce pas? Et nous connaissons des gens au Québec qui sont nés pauvres, qui ont été malchanceux, qui ont été malades, qui ont été infirmes, ou pour toutes sortes d'autres raisons, sont pauvres et qui ne sont pas nécessairement des lâches, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous dégageons des principes généraux qui ne sont pas toujours applicables à toutes les espèces de cas. Et ça, c'est un principe très important. Toujours lorsque nous lisons le livre de Proverbes, il faut se souvenir de ce principe-là. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci, c'est que j'ai comme principe d'appliquer la parole de Dieu à moi-même avant de désirer appliquer aux autres. Et j'aimerais beaucoup vous suggérer que c'est très facile de pointer notre doigt à lui ou elle. De plus en plus, je réalise que la paresse se trouve dans chacun de nous. La paresse se trouve chez nous tous. Puis ça se manifeste de différentes façons. Et alors ce matin, nous nous rappelons de ce bon principe que lorsque nous faisons cela, mais même pour un gars qui a des doigts croches comme moi, il y a encore quatre doigts qui pointent vers nous, oui. Puis ce que nous avons à dire, ce que la parole de Dieu dit sur la paresse aujourd'hui, nous touche tous de près. Alors commençons par regarder quelques signes de la paresse. Le proverbe de... Les proverbes, le livre des proverbes, nous présente des signes, des indicateurs qui peuvent nous aider à déceler si la paresse se trouve chez nous. Et pas chez le voisin, là, hein? Chez nous. Puis un de ces signes-là me touche de près, alors je le traite en premier, procrastinateur. Le procrastinateur a un dicton qui se répète tous les matins avant de se lever, puis tous les soirs avant de se coucher. Ne faites pas aujourd'hui ce qu'on peut faire demain. Hein? Nous l'avons lu en Proverbe 26. Regardons aussi dans Proverbe chapitre 22, s'il vous plaît, et le verset 13. Le paresseux dit, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Maintenant, ici à Trois-Rivières, on n'a pas de lion, autant que je sache. Dernièrement, il y a un homme, un jeune, qui a été tué en San Francisco, n'est-ce pas, par un tigre. Mais c'est plutôt rare ici en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Plutôt rare. En Israël, à l'époque, ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y avait quand même des lions. Aujourd'hui, il n'y en a plus dans cette partie de la terre. Il y en avait des lions, mais j'aimerais vous suggérer qu'il n'y avait pas de lions dans les villes. Ici, au Québec, il y a des ours, n'est-ce pas? Ça m'arrive une fois par 10 ans de voir un ours dans le bois. J'ai déjà rencontré un ours en Nouveau-Brunswick en faisant la pêche. Nous autres, Nouveau-Brunswick, on pêche dans les ruisseaux. Des ruisseaux, ça de large, puis ça de creux, puis on va chercher notre truite là. Maximum de 10. Mais ils sont bien petits. Alors nous autres, on dit 10 douzaines. Ça prend 10 douzaines pour avoir un bon repas. Mais on les mange dans le bois, alors ça compte pas. N'est-ce pas, Benoît? C'est ça? Puis, en tournant dans un ruisseau avec des truites dans mes poches, je rencontre un ours qui m'a regardé et il fait... Il n'a pas eu mes truites. Mais c'est plutôt rare. Puis nous sommes devant une personne ici qui soulève une situation ridicule, qui est dans une ville, puis qui est tellement paresseux qu'il ne veut pas sortir dehors. Parce que je vais être tué dans la rue. C'est comme je disais ce matin, je n'irai pas l'assembler, il y a sûrement un ours dehors, puis je serai tué dans les rues de Trois-Rivières. Procrastinateur. Vous savez qu'une personne comme ça est toujours prête à commencer un travail, mais pas tout à fait prête à commencer un travail. Proverbe 26:15 nous dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat, il trouve pénible de la ramener à sa bouche. » Un homme qui peut-être s'est préparé son repas, ou peut-être que c'est son épouse qui l'a préparé, tellement paresseux qu'il a faim que... Il trouve ça pénible de plonger sa main dans le plat. Je suis parfois paresseux, mais jamais à ce point-là. En passant, il y a une autre bémol, je pense, qu'on devrait mentionner. L'humour dans notre culture à nous, puis le livre de Proverbes est rempli d'humour. Et surtout dans les questions qui touchent la paresse, le livre de Proverbes est rempli d'humour, mais l'humour pour nous banalise quelque chose, le rend insignifiant. Mais dans la culture hébreu, l'humour était plutôt pour souligner et rendre mémorable un principe. Alors même si ici dans le passage, on utilise l'humour pour illustrer la paresse, oh, chers amis, ce n'est pas banal. Et en utilisant l'humour, le Saint-Esprit qui écrit ces passages par la plume de Salomon ne veut pas banaliser puis rendre insignifiant la paresse, mais veut plutôt le souligner puis le rendre mémorable. Demain, c'est le 31. J'ai deux rapports pour le gouvernement que je dois renvoyer au gouvernement avant le 31 décembre, avant le 1er janvier. Puis demain, avant 5 heures, je dois aller au bureau de poste puis envoyer ça par lettre enregistrée parce que je suis en retard pour avoir une date, tu sais, vous comprenez, là? Hein? Puis il me semble que c'est tous les années, ces rapports-là, c'est fait le 31 décembre. Procrastination, c'est un signe de paresse. Il y a un deuxième signe de paresse qui est rationalisé. Le paresseux est vif d'esprit pour trouver des excuses. Ne pensons pas que parce qu'on est intelligente ou parce qu'on est capable, il y a des belles chaises en avant qui sont vides, les amis, gênez-vous pas. Ne pensez pas que parce qu'on est intelligent et on est capable de répondre, puis dire, puis faire des excuses, qu'on n'est pas paresseux. Le paresseux est très vif pour trouver des excuses. On l'a vu tantôt, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il y a donc d'imagination, il est capable de trouver des excuses. Troisièmement, le paresseux prend toujours le chemin de la moindre résistance. Proverbe 6, 10 nous dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Il refuse de faire face au monde. Puis il me semble que dans Proverbe 6, 10, on est en train de dire par ce mot un peu, qu'on répète par trois fois, que beaucoup de petits moments perdus ensemble, additionnés ensemble, font des opportunités qui sont perdues. Puis j'aimerais simplement, vous savez que rendu à mon âge, le sommeil est précieux. Puis des fois, je ne dors pas beaucoup, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de dormir. Hein? Mais si j'ai ben misère à me laver le matin, écoute bien, c'est les fêtes. C'est permis le 1er janvier de se lever plus tard que 6 heures le matin. Puis si vous êtes encore couché à 9 heures le matin, mais je ne vous chicanerai pas. À midi, par exemple, là, je pourrais peut-être avoir des doutes. Hein. Mais si jamais, là, si vous êtes caractérisé par cela, bien, il y a peut-être un problème. La paresse est caractérisée par la folie. Intéressant que dans le livre de Proverbes, la paresse est mise en contraste avec les hommes sages, l'homme droit. Proverbes 15, 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. J'aime marcher dans le bois, je le fais moins souvent que je le faisais. Je suis trop paresseux. Mais des fois, on marche dans le bois, je pense au Nouveau-Brunswick particulièrement, où est-ce qu'on cherche des ruisseaux pour faire la pêche, et il y a des épines, puis on ne peut pas marcher à ce qu'on veut, puis ça nous fait des fois tourner par là. Je me souviens d'avoir été à pêche avec un homme du village de mon épouse, ou du village de voisin, l'ami de mon beau-père. On est allé à pêche, puis je me souviens de l'avoir suivi pendant 3 heures pour trouver un ruisseau, parce que c'était plein de tuites. Puis d'avoir tourné comme ça tellement de fois, parce qu'il y avait des aides, une aide d'épines partout, puis on ne pouvait pas marcher ce qu'on voulait. Puis il y avait des arbres qui avaient tout tombé à cause de la tordeuse d'épinette, je pense que c'est ça qu'on l'appelle. Et un chemin détourné, puis c'était difficile. Puis le chemin d'un paresseux est comme cela. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Mon beau-père me disait, puis c'est un homme très travaillant, c'est un peu un mot d'encouragement pour moi, quand je trouvais que mes propres enfants, des fois, n'étaient pas aussi travaillants que j'aurais voulu lorsqu'ils étaient ados. Avez-vous remarqué ça, les parents, que des fois, les ados, ce n'est pas bien travaillant lorsqu'ils sont ados? Hein? Ça arrive-tu des fois? Pas ici, hein? Mon beau-père me disait, il dit, quand j'étais petit gars, un de mes jobs, c'était de remplir la boîte de bois. C'est, il y avait une sorte de boîte comme ça, là, ou comme ça, où est-ce qu'on mettait le bois de chauffage. Puis il dit, moi, il dit, je pouvais passer une demi-heure à piler, croiser le bois, tu sais, de la mettre croisée dans une sorte de croisée, pour qu'il y ait moins de bois. Pour que j'aie moins de bois à mettre dans la boîte de bois à chauffage. Puis il dit, au fond, j'aurais pu le remplir comme il faut, tout droit, dans 10 minutes, mais je prenais une demi-heure pour le mettre toute croche pour que je travaille moins. Hein? Je me suis identifié avec ça un petit peu. Hein? Le chemin de moyenne résistance. Folie. Il manque de gros bon sens. Proverbe 24, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y coincées par-dessus, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Bien des années, quand je travaillais à Louisville, on cherchait une personne, on avait décidé d'ouvrir un poste de magasinier. L'entreprise avait grandi, puis il y avait beaucoup de papier, beaucoup d'encre, beaucoup de produits. Puis on avait des problèmes, des difficultés. Alors on a mis une grande clôture en broche, puis avec une porte. Puis on a dit, on va prendre un employé, puis on va le mettre responsable de ce magasin-là, puis on va contrôler notre inventaire. J'ai fait partie d'une réunion où est-ce qu'on décidait qui qu'on allait mettre là. C'était un poste intéressant et une sorte de promotion. Puis, on avait une liste de 7 ou 8 personnes qui ont discuté. Puis, je me souviens que le grand patron, Jean-Pierre, a dit ceci, on discutait des noms. Puis, tu sais que Louisville, Saint-Justin, toutes ces régions-là, c'est des petits villages, tout le monde se connaît. Puis, le grand boss a dit, ouais, il dit, je pense à ce gars-là. Puis, je pense à telle personne-là. Puis, je passe devant sa maison l'hiver-là. Puis, c'est pelleté la droite-là. Tu peux le mesurer ça avec un micromètre, puis c'est tellement pelleté droite. Puis l'été, c'est toujours, le gazon est toujours tendu là, à une corde plus près. Puis les haies sont toujours coupées de droite, puis tout est ramassé, tout propre. Il dit, c'est un gars comme ça que j'aimerais avoir dans le magasin. Hein? Puis je suis content qu'il n'avait pas passé devant chez moi des fois. Hein? Un gros bon sens. Un autre signe, c'est que le paresseux demande une supervision constante. Proverbe 12, 24 nous dit, « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Ceux qui ont travaillé dans des shops, là, vous savez qu'il y a des gens, qu'on leur dit quoi faire une fois, puis ils font tout seuls. Hein? Puis il y a d'autres gens, là, on n'a même pas besoin de dire quoi faire, ils font, ils cherchent l'ouvrage devant. N'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça? Puis il y en a, quand on leur donne un job, il faut retourner 25 fois pour être certain qu'ils le font. N'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça? Mais c'est de ça que ça parle. La main des diligents dominera, mais la main lâche, c'est le tributaire. Et vous savez, je parle aux jeunes, parce qu'il y a plus de jeunes ici ce matin que d'habitude. Puis si vos parents sont obligés de vous demander 20 fois tous les soirs, « As-tu fait tes devoirs? As-tu fait ton lit? » Vous faites vos lits le matin, hein? Tous les matins? Ah. C'est quoi ça, ces grimaces-là? Hein? J'aimerais ça vous dire que je fais mon lit à tous les matins, mais ma femme aime tellement faire mon lit, notre lit, que je lui laisse faire parce que je l'aime tellement. Mais si on se regarde, si on est honnête ce matin, puis on dit qu'on est toujours notre patron, et toujours nous obligé de nous dire, fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est un mauvais signe, c'est un signe de paresse. C'est un peu diagnostic ce matin. Il faut être honnête. Les séquelles, le mot conséquence est peut-être mieux, mais ça ne commence pas avec un S. Les séquelles, les conséquences de la paresse. D'abord, Proverbe 19, 15 nous dit que la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est moins vrai aujourd'hui à cause de notre système de sécurité sociale. Le proverbe nous dit que ceux qui sont lâches ne mangent pas. Et vous savez que, sans aller dans la politique ce matin, c'est parce que ce n'est pas ma place, puis le tribune ici, ce n'est pas la place pour le faire. Je trouve qu'une des difficultés que nous avons, c'est que dans notre société, nous avons enlevé les conséquences. Maman et papa, dans votre façon d'élever vos enfants, puis je suis content d'un enfant, d'une assemblée qui est remplie d'enfants, puis c'est plaisant ça là. Si je regarde, là je suis rendu grand-papa, puis père, si je regarde les erreurs que j'ai faites comme père, une des erreurs que j'ai faites, si j'avais à recommencer, ça serait-tu fun de recommencer? Je ne sais pas si j'aurais l'énergie, mais des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas vaut la quarantaine, vaut la trentaine. Mais je pense que je permettrais aux conséquences des gestes que mes enfants avaient posés de les atteindre un petit peu plus. Comme parents, souvent, nous voulons empêcher que nos enfants subissent les fâcheuses conséquences des gestes qu'ils posent, n'est-ce pas? On veut les protéger des conséquences. Puis comme société aussi, puis moi je suis bien pour les services sociaux, puis toutes sortes d'argent pour ceux qui sont mal pris, qui sont infirmes, qui sont malades. Je pense qu'on devrait augmenter énormément ce qu'on leur donne comme société. Puis ceux qui sont en pleine santé et qui sont lâches, puis il y en a. Ce n'est pas tout le monde qui ne travaille pas que c'est des lâches, mais il y en a qui le sont, vous le savez. Mais ceux-là, s'ils avaient faim un petit peu, ça pourrait les motiver un petit peu plus de travailler. Puis dans le passage ici, la faim, c'est une des conséquences d'être lâche. Deuxième conséquence, c'est la pauvreté. Puis encore une fois, je vous rappelle le bémol qu'on a présenté au début. C'est que ce n'est pas tous ceux qui sont pauvres qui sont lâches. Je le relis, cela-là. Mais Proverbe 6, nous dit, chapitre 6, versets 10 et 11, le dit clairement. Un peu de sommeil, un peu de soupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et le disette comme un homme en armes. Et la pauvreté, c'est une des conséquences, une des séquelles de la lâcheté. Et des problèmes fréquents. Moi, des fois, je suis dans le trouble parce que j'ai été paresseux. Ça m'arrive. L'année passée, allez que j'allais à Québec pour enseigner. Je me suis levé à 4 heures le matin pour aller dehors puis neiger. Il fallait que j'aille à Québec. Puis j'ai regardé la neige qui était pilée dehors, puis j'étais trop paresseux pour la pelleter. Je n'aime pas particulièrement pelleter la neige. Alors, je me suis dit, je suis capable de sortir de là. J'ai chauffé mon auto, je l'ai brossé. Je l'ai mis en reculant, puis j'ai sorti, mais je n'ai pas sorti. J'ai resté à cracher. Alors, je vais prendre 10 minutes pour pelleter. J'ai pris une heure pour déjacker. C'est quand un auto est jacké sur la glace et le neige, c'est-tu plate, ça? Les fâcheuses conséquences de la paresse. Hein? Problèmes fréquents. Puis au fond, là, des fois, on est mal pris, puis on a des problèmes, puis notre chemin est tortueux, puis on rencontre souvent des haies d'épines. C'est déplaisant, des épines, ça pique, puis ça fait mal. Puis c'est le paresse qui fait cela. Proverbe 13, 15 nous dit, « Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. » Ce mot rude est traduit dur dans d'autres traductions. C'est difficile. Il y en a qui, ils ont la vie difficile. Ce n'est pas toujours le cas. Mais des fois, c'est à cause de la paresse. Mais des fois, on doit rentrer dans soi-même et se poser la question, certaines des difficultés que je vis, est-ce que c'est parce que je suis paresseux? Je parche à l'école. Je n'ai pas des bonnes notes à l'école. Je ne peux pas rentrer dans les programmes que je voudrais. C'est parce que je n'ai pas assez étudié. Hein? J'étais en Nouveau-Brunswick dans ma famille pour Noël, puis jasais avec ma nièce. Je pense que son moyenne l'année passée, c'était 99,5 dans le secondaire 5, je pense. Puis en secondaire 6 là-bas. Puis cette année, elle est déçue parce qu'elle a juste 97 de moyenne. Puis c'est sûr que c'est une balle. Mais c'est aussi sûr qu'à l'heure de midi, elle va dîner chez sa grand-mère. Puis elle passe, elle mange rapidement. Puis elle passe une demi-heure pour réviser ses notes. À midi, là. Puis le soir, son père me dit qu'elle étudie en moyenne 4 heures tous les soirs. Puis elle est très souvent debout à 6h30 le matin pour étudier une heure avant d'aller à l'école. Hein? Alors, c'est une balle. C'est une balle. Mais c'est pas un lâche. C'est pas un lâche. Alors, un frère, c'est un bon gars. Mais je pense qu'il n'a pas encore appris comment ouvrir un livre. Tu comprends? Il y en a qui sont comme ça, là. Et il y a des moins bonnes notes, mais c'est aussi une balle. T'sais? Mais moins bonnes notes. Elle a des chemins ouverts pour elle. Elle a tellement de bourses que c'est gênant pour elle. Toutes les universités dans les provinces atlantiques veulent l'avoir. Là-bas, on fait du scouting. On envoie des lettres et on appelle du monde pour les inviter pour aller dans leur école. Toutes les portes sont ouvertes pour elle. Pourquoi? L'acheter, elle ne connaît pas ça, elle. Parlons des sources de la paresse. Puis là, chers amis, ça va peut-être faire mal un peu. J'aimerais vous d'abord vous suggérer que la personne qui est paresseuse est très souvent centrée sur lui-même, égoïste. Proverbe 21, verset 25 nous dit ceci. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne son parcimonie. Des fois, on a l'impression que les personnes sont lâches parce qu'ils n'ont pas d'ambition. J'aimerais simplement vous dire que les personnes les plus ambitieuses que je connais sont des lâches. Okay? Ce n'est pas un manque d'ambition, mais un manque de désir qui caractérise nécessairement les paresseux. Les paresseux sont souvent des rêveurs. Regarde le passage ici. Le Saint-Esprit ici qui parle, qui connaît nos cœurs, le Dieu créateur qui nous voit avec une flamme de feu, comme nous allons voir la semaine prochaine dans l'église de Thyatire. Dieu, le Saint-Esprit, avec sa regard de flamme, regarde dans nos cœurs, puis nous dit, cette personne qui est paresseuse, tout le jour, il éprouve des désirs. Puis, ses désirs le tuent. Puis, le contraste est fait avec le juste qui donne son parcimonie. Le juste n'est pas centré sur lui-même. Il pense plutôt aux besoins des autres. Puis même, il est prêt à travailler pour aider les autres dans leurs besoins. Mais le paresseux, lui, là, il pense à lui. Ses désirs sont centrés sur lui-même. C'est l'égoïsme qui est très souvent la source de la paresse. Il est dominé par ses désirs. Proverbe 13, 4 nous dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Voyez-vous, encore une fois, le paresseux, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambition. Ses ambitions sont souvent centrées sur lui-même, sur soi-même, plutôt que sur les autres, par exemple. Le paresseux ne pense pas à long terme. Proverbe 10, chapitre 5, nous dit ceci, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Le livre de Proverbes a été écrit à une époque où le peuple de Dieu était surtout un peuple agricole. Et vous savez que la moisson est un temps difficile. J'ai Je ne suis pas un fermier. J'ai quand même eu le privilège de travailler sur une ferme à l'occasion. Puis, au Nouveau-Brunswick, où j'ai ramassé les patates, puis mon épouse a ramassé les patates, moi, j'étais chanceux, j'ai travaillé sur les machines. Mon épouse a payé ses études à l'école biblique en ramassant les patates couchées à terre ou à genoux, en ramassant des grosses barils pleines de patates. Tu comprends, là? Puis un baril de patates paye 180 livres, je le sais. Puis jeune homme, j'étais capable de lever un baril de patates une par-dessus de l'autre comme ça. Puis quand j'étais vraiment en forme, une couple de fois, on a fait trois de haut, comme ça, là. On faisait ça comme jeune pour prouver qu'on était quelqu'un. Mais je sais que les fermiers, là, quand c'est le temps de ramasser, là, ils sont donc stressés. Vous savez que s'il faut qu'il pleut pendant qu'il faut faire des balles de foin, mais ça va mal. Il y a un couple de jours, deux, trois jours, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, où le foin est vraiment là, au meilleur pour les vaches. Puis la quantité et la qualité du lait qu'on va avoir toute l'hiver prochaine dépend de ce qu'on va ramasser les balles de foin ces jours-là. Puis deux fois dans l'année à bord de ça. Puis j'ai ramassé des balles de foin dans ma vie. Puis nous autres, on n'avait pas d'équipement, oui. Comme ça, c'est les chariots. Puis des patates aussi. Les patates, là, il faut les ramasser avant que la neige arrive. Puis on a beau avoir des millions de tonnes, des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de patates dans la terre, mais s'ils passent l'hiver à temps de terre, ça ne donne rien. Absolument rien. Il y a une dictonne en anglais que j'ai trouvée cette semaine, j'ai trouvé intéressante. C'est que des fois, le mois de décembre pose la question, qu'est-ce que vous avez fait au mois d'octobre? Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Chers amis, il y a des moments où il faut travailler. Puis il faut penser à long terme. Proverbe 6, un verset qu'on connaît bien, est « Va vers la fourmi par-dessus, considère ses voies et devienne sage. Pas de chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. » Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Regarde les abeilles. Regarde les fourmis. Si vous êtes une de ces personnes-là qu'il faut toujours vous diriger à coup de pied dans le derrière pour que vous travailliez un peu. Avez-vous dit ça dans l'armée des fois? Est-ce que ça arrive? Vous avez des gars comme ça? Oui. Mon père en avait comme ça. Puis il savait comment les botter, je peux vous dire. Ouf. Puis j'ai eu un père qui m'a botté aussi. Mais c'est ça, là. Les Écritures invitent une personne qui a besoin d'être dirigée à coup de pied dans derrière à aller voir les fourmis. Il n'y a personne qui botte les fourmis dans derrière. Ni les abeilles. Ça travaille toute seule. Puis ça ramasse l'été. Puis s'il ne ramasse pas l'été, il crève l'hiver. Hein? C'est ça. Ensuite, une des sources de la paresse est un manque de discipline. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Des choses vaines. Il y a dans la littérature espagnole un homme qui s'appelle Don Cervantes, qui rêve des moulins à vent toute sa vie, puis qui finit mal. Puis il y en a qui sont des grands rêveurs, puis ils manquent de discipline. Le passage ici nous dit qu'ils sont pourvus de sens. Soigne tes affaires de dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Priorité, discipline. Ça, c'est une de mes difficultés. Je suis un gars assez travaillant, mais des fois, je ne travaille pas des bonnes choses. Solution. Douleur, pression, problème, conséquences naturelles. Mon cher ami, pensons aux conséquences, pensons aux problèmes, aux pressions. Changez les perspectives et les priorités. J'aimerais qu'on pense quelques secondes, une couple de minutes à Matthieu 22. Jésus répond à un jeune homme qui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Effectivement, j'ai dit tantôt que le paresseux est très souvent centré sur lui-même. Et être centré sur lui-même, c'est l'opposé direct, c'est le contraire drastique de tout ce que la Bible, de tout ce que le Seigneur nous montre que la norme de l'enfant du Seigneur. L'enfant du Seigneur est centré d'abord sur la personne de Dieu. Il ne pense pas à ce qui va lui faire du bien, à ce qu'il lui désire faire, à ce qu'il rêve pour lui. Il pense à ce qui va plaire à Dieu. Puis deuxièmement, un homme de Dieu, une femme de Dieu pense à ce qui va faire du bien à son prochain. Une des difficultés que nous avons dans notre monde, c'est qu'on est tellement centré sur nos besoins, sur nos bobos, sur notre embris. Jésus dit que c'est l'essentiel des 10 commandements, c'est la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux commandements-là. Mon devoir envers Dieu et mon devoir envers les autres. Et quand je suis concentré sur cela, ça va me sortir de la paresse parce que je vais travailler pour plaire à Dieu et je vais travailler pour faire du bien à mon prochain. Philippiens 2, 3 à 8 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les unes comme étant au-dessus de nous-mêmes, de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et si je suis couché le matin, encore à 9 heures, en train de rêver, je peux penser à ce que je peux faire pour mon Dieu, ce que je peux faire pour mon prochain, ça va peut-être m'aider à sortir de la paresse. Je termine avec une dernière question, il nous reste 3 minutes. Question qui va peut-être vous surprendre, qui me coupe au vif. Est-ce que le workaholic est parfois une forme de paresse? Workaholic, comment on dit ça en français? Accroché au travail? Travailocolique? Mais vous savez qu'est-ce que c'est, hein? Un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool au point que ça le contrôle. Un workaholic, c'est quelqu'un qui travaille tellement que son travail le contrôle. Et des fois, ce n'est pas une forme de paresse, cela. En regardant ces passages depuis quelques mois, puis je vous dis qu'un de mes projets de vie que je ne ferai jamais parce que je suis trop paresseux, c'est soit d'écrire ou soit de traduire un excellent commentaire sur le livre de Proverbes en français, parce qu'en français, il n'existe à peu près rien sur les proverbes. Et en passant ces passages, je regarde moi-même, et vous me connaissez probablement comme une personne qui travaille passablement d'heures dans une semaine, mais je me rends compte que souvent mon travail est une façon de cacher mon refus de faire les choses qui sont plus importantes. Est-ce que vous me comprenez? Que des fois, il y a des choses que je devrais faire, puis je ne fais pas. Puis je peux camouflager, je peux cacher ces autres choses que je devrais faire qui sont plus importantes par un excès de travail dans certains domaines. Le Seigneur m'appelle pour être un père. Est-ce que j'échappe à mes devoirs comme père, puis je laisse à mon épouse une partie trop importante de ce travail-là, en me m'entourant de choses sur mon bureau, vous me comprenez? Hein? Ou en travaillant 80 heures par semaine? Est-ce que le Seigneur m'appelle dans un service dans l'église locale? Mais je suis trop occupé. Puis est-ce que ces grandes occupations-là qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que je suis en train d'être paresseux en ce qui concerne mon service envers Dieu puis mon service envers les autres? En remplissant ma vie d'autres choses qui sont peut-être bien valables, mais qui prennent une proportion qui est exagérée. Puis qu'au fond, je vais rencontrer Dieu un jour, puis Dieu va me dire, je t'ai donné cette capacité pour travailler parmi le peuple de Dieu, puis travailler dans mon travail à moi, puis tu n'avais pas les priorités à bonne place. Puis n'est-ce pas que ça peut être une forme de paresse? Vous savez que j'ai des formulaires demain, appelle-moi pas, hein? Demain matin, là, j'ai bonne 6 heures de rapport à faire pour le gouvernement. Et si je ne les ai pas faites, ce n'est pas parce que je n'ai rien fait. Il n'y a pas une journée que je n'ai rien fait, moi, là. Hein? Ben, il y a une couple de journées que j'étais à l'hôpital sous le morphine. Là, je n'ai pas fait grand-chose, excepté de rêver. Mais vous le comprenez, là. Mais il y a peut-être des choses que j'ai faites qui étaient moins prioritaires. Vous me le suivez, là? Hein? Et des fois, la paresse est déguisée, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, est déguisée par une suractivité dans un autre domaine qui ne devrait pas être prioritaire pour moi. Nous avons terminé. Je pense ce matin que la paresse est attachée à tous nos cœurs. On est capable, tout le monde, de vivre à certains moments dans notre vie et dans certains domaines de notre vie, la paresse. Alors, si le Seigneur vous a parlé par certains signes et par certaines sources et par certaines motivations intérieures, peut-être qu'on a des choses à changer. C'est le 30 décembre aujourd'hui. Je ne suis pas fort sur les résolutions de nouvelle année. Mais peut-être que dans l'année 2008, on devrait arrêter de faire des excuses et de déguiser notre refus de faire selon les priorités de Dieu, puis d'être moins paresseux dans les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Nous prions avant de se quitter. Seigneur, nous tournons vers toi ce matin et nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui dit des fois, Seigneur, des choses que nous ne voulons pas entendre. Merci que tu nous as donné des priorités, notre service pour toi et notre service pour les autres. Et Seigneur, nous demandons que tu nous aides à rentrer en soi-même aujourd'hui, puis de nous examiner et d'être honnête, puis confesser devant toi, Seigneur, si la paresse nous a empêchés de te servir comme nous devrions te servir. On se souvient de Moïse, Seigneur, qui a été appelé pour faire certains services pour toi, puis il a trouvé toutes sortes de raisons, le gêne, toutes sortes de choses. Puis comment que ta colère s'est enflammée contre Moïse, parce que ces excuses-là, tu les as vues telles qu'ils étaient. Et nous confessons que nous sommes maîtres, Seigneur. Nous sommes très capables d'inventer des sortes d'excuses. Et nous demandons avec instance, Seigneur, que tu nous aides à détecter puis à déraciner la paresse dans nos cœurs si ça existe chez nous. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.